Bonjour à tous. Donc Antoine Bonneau, je suis doctorant au CITI et donc CITI INSA Lyon et Ampère Université Lyon 1. J'ai commencé ma thèse en octobre, donc c'est tout récent. Et cette thèse s'axe sur de l'intelligence artificielle, mais dans des milieux contraints, dans des milieux à mémoire contrainte, à capacité de traitement contrainte, et donc on se retrouve dans un contexte qu'on a présenté pas mal aujourd'hui, enfin et hier pendant les Green Days, dans lequel on va essayer de regarder tout ce qui est consommation, tout ce qu'on peut se permettre de faire en termes d'apprentissage sur des cibles matérielles contraintes en mémoire, en communication, en puissance de calcul. Certaines clés de cette thèse sont partent de plusieurs use cases de contrôle actif à partir de réseaux de capteurs dans lesquels on se pose des questions de jusqu'où on peut descendre, quelles vont être les consommations minimales pour viser une autonomie plus ou moins partielle dans des systèmes intermittents, et comment on peut utiliser ces solutions d'apprentissage pour maintenir notre réseau de capteurs dans le temps, tout en prenant en compte la mesure de notre consommation énergétique et de notre consommation carbone, puisque c'est un point important pour le futur d'éthique. On se concentrera, contrairement à la plupart des approches, sur de la time series. Beaucoup d'articles qui vont faire ce que je vais vous présenter le font principalement sur de la vision, parce que c'est plus intéressant, parce qu'on va pouvoir montrer qu'on a fait meilleur que les précédents. Mais nous, on veut rester très terre à terre, très proche de ce que vont faire les industriels, par exemple, sur du monitoring. Donc de la time series. Un des premiers aspects, ça va être donc l'apprentissage sur les cibles matérielles, donc avec ces ressources contraintes. Donc on a plusieurs exemples, par exemple l'équipe de Profensas a réussi à porter, donc ce coup-là c'est de la vision, comme je vous en avais parlé, sur des petites cibles, donc des petits STM32, on a quand même une bonne mémoire, il me semble que c'est 250. Ils veulent descendre jusqu'à 256 kilobytes pour de l'inférence et du fine-tuning. On ne parle pas d'un training de zéro. Donc ils vont utiliser des méthodes de pruning, des méthodes de quantization et des méthodes de compression, notamment la compression de Hoffman. Derrière, on va vouloir viser, nous, à utiliser donc des capteurs qui sont assez petits. Vous en avez un exemple là, dans lequel on va regarder des architectures vraiment très faibles. Vous avez un exemple des capacités qu'on vise dans nos cibles matérielles. Ça tombe bien, ça aussi, ça a été présenté hier, toute la partie intermittente, avec donc la première partie checkpointing qui a été présentée. Donc, on se retrouve avec des cibles matérielles dans lesquelles on veut viser l'autonomie, mais dans lesquelles on veut quand même faire quelque chose. Donc, on est contraint par l'énergie qu'on a à disposition. Donc il va falloir mettre en place des stratégies pour quand même apprendre, quand même inférer, quand même fonctionner et faire tourner notre système avec une énergie qui n'est pas disponible partout et tout le temps de la même manière. Et donc du coup il va falloir se reconfigurer en fonction de l'énergie disponible et ne pas travailler dans le vent comme vous l'avez présenté hier. La partie checkpointing. Donc là, on arrive sur la partie federated learning. Donc, pour une fois qu'on a, comment dire, Une fois qu'on s'est occupé de travailler sur un milieu contraint en mémoire et en puissance de calcul, et qu'en plus on a réussi à s'adapter avec toutes les contraintes de batterie, toutes les contraintes énergétiques, eh ben, on se retrouve avec de nouvelles contraintes, c'est des contraintes sur les données, parce qu'on va travailler avec des capteurs qui ne bougent pas forcément, qui n'ont pas beaucoup de données, qui n'en ont pas souvent. Et donc, il va falloir que, si on veut monitorer un gros système, il va falloir avoir plusieurs parties de ce système, sachant que chaque module chaque sensor, chaque capteur de ce réseau ne capture que des parties du modèle global. Donc, initialement, ce qu'ont fait les industriels et les chercheurs, c'est de remonter, comme on vous l'a présenté juste avant, jusqu'au cloud, et que derrière, on fasse la partie inférence, on fasse la partie training, on fasse tout sur du cloud, parce qu'ils ont beaucoup de puissance de calcul, ou alors de remonter un peu à l'edge. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, on est dans un cadre dans lequel on ne veut pas et où on ne peut pas forcément faire de grosses communications avec l'extérieur, donc on va vouloir tout garder en interne, mais avec des capteurs qui ont une partie des données. Donc il va falloir qu'ils se partagent le modèle entre eux, donc de manière distribuée ou semi-distribuée, pour pouvoir une meilleure compréhension du modèle global. Et tout ça en regardant combien ça nous coûte, en faisant le trade-off de la communication, de l'apprentissage, de l'inférence. Je vais vous présenter un cas d'usage donc de modèle ascendant. Un des cas auxquels on va s'intéresser pendant la thèse, donc c'est le cas d'une plaque, une plaque vibrante, sur laquelle on a plusieurs modules, plusieurs capteurs, et qui vont être chargés donc de faire le monitoring. Et donc sur ce setup, on se retrouve dans des possibilités de dans des faibles puissances capturées, donc pour la partie énergie harvesting, la partie intermittente est donc assez importante, si on veut se baser uniquement sur la capture de données vibratoires. On se retrouve dans un cas dans lequel les capteurs ne peuvent pas bouger, donc on a une faible partie de la donnée, une faible signature de la plaque. On veut essayer de partager la puissance de calcul et... de partager les calculs et le monitoring entre tous les nœuds pour l'objectif qui est annoncé ici, c'est une réduction de la vibration globale de la plaque. Donc sur la plaque, on a et des sensors et des actuators pour réduire la vibration. Donc on a extrait la manip que je vous ai présentée hier, sur la slide d'avant. On a extrait une partie des données, donc ce que vous voyez en bleu, c'est la vibration enregistrée par un vibromètre au point où le pot vibrant est fixé à la plaque, et on a deux piézoélectriques qui sont mis sur la plaque, et on voit les signaux en très petit, en vert et en orange, et on va essayer d'appliquer donc ici un algorithme de classification en utilisant des frameworks que je vous présente pas là, mais que vous pourrez aller voir. Et on va regarder combien ça nous coûte de faire ces entraînements avec des solutions de Wattmate logiciel que vous retrouverez sûrement dans le papier de Mathilde, qui sont ici Carbon Tracker et Code Carbon, pour avoir des informations sur le coût énergétique du travail qui est fait, d'abord sur ordinateur, d'abord sur un laptop, pas sur les cibles contraintes, donc au niveau du GPU, du CPU et de la RAM. Donc dans un premier temps, je me suis intéressé à la classification des signaux, je vous ai montré juste avant, en utilisant un petit réseau de neurones, en testant le coût de cette inférence en temps, en fixant le nombre d'époques et de son évolution en jouant sur la quantité de données qu'on a à prendre, en jouant sur le subsampling des données auxquelles on avait accès. Donc on peut voir que l'axe des fréquences n'est pas linéaire, mais donc on a une corrélation et une descente linéaire du temps de calcul et de l'énergie demandée avec une accuracy qui finit par décroître quand on arrive à une trop faible fréquence dans les données qu'on a enregistrées et qu'on entraîne. Sur ce premier travail préliminaire, on a pu noter que entre la plus faible et la plus grosse, comment dire, consommation, on est entre 0,1 et 1 g de équivalent CO2, avec sur l'ensemble des apprentissages qui a été fait pour le travail, donc les 24 runs, 6,2 g équivalent CO2, et le but sera de comparer plus tard ce coût énergétique quand on descendra sur des algorithmes qui consomment moins, ou quand on descendra sur des cibles qui consomment moins. Donc pour pouvoir comparer une descente et faire le trade-off entre le coût d'apprentissage avec les machines utilisées, les puissances qu'on a à disposition, les mémoires, etc. Donc là pour l'instant on s'est intéressé à cette première technique de décimation du signal, et après on voudra appliquer d'autres techniques et regarder donc le coût énergétique et le coût carbone, notamment donc un subsampling aléatoire ou en utilisant des méthodes de clustering pour aller chercher les points les plus intéressants. Et derrière, en plus de cette analyse qui est faite sur tout le signal enregistré, donc il y a 40 secondes, on va vouloir appliquer sur des fenêtres, voir si on peut améliorer la classification, sachant que plus tard, on ne travaillera pas sur un signal complet quand on sera vraiment sur les machines, on travaillera sur des bouts de signal parce qu'on ne sera pas allumé en permanence. Donc derrière, un des points du travail qu'on veut aborder, donc c'est l'aspect fédéré. Donc là ici sur ce schéma, vous avez on retrouve nos capteurs avec les modèles sur chacun de ces capteurs, les modèles locaux. On peut voir les signaux, les signatures de la vibration de la plaque, qui est différente pour chacun des capteurs, parce qu'ils ne sont pas situés au même endroit de la plaque. La vibration ne parcourt pas les mêmes défauts dans la plaque, d'où les signatures différentes, mais qui se ressemblent quand même. Donc on peut noter les pics qui sont en fait le même événement, la même cassure dans la plaque lors du déplacement de la vibration. Et donc une des parties intéressantes liées au Federated Learning, ce sera d'utiliser cette technique pour apprendre le modèle de la plaque malgré l'espacement de ces capteurs dans l'espace et dans le temps, vu qu'ils ne seront pas allumés au même moment. On peut noter également toute la partie bruit des données, qui va varier en fonction de l'endroit où on est. Par exemple, si on est plus au point proche d'un défaut, et donc de voir si avec ce bruit qui est associé à un signal qu'on connaît, on va pouvoir identifier le type de défaut auquel on a affaire et pouvoir s'adapter dans le temps. Si par exemple on a une altération du matériel évalué, du matériel monitoré, de pouvoir s'adapter, de dire c'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, on sait que ça a été modifié, maintenant on veut pouvoir revenir à une espèce de norme et pouvoir détecter le prochain problème. Et donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, je sais pas si j'étais clair. Merci.
Merci.